Pour que nature vive.
Pour que nature
vive. Pour que nature vive.
Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète.
Le vivant et notre planète.
Série spéciale Océan. Une odyssée jalonnée de légendes et de récits d'aventures. Le Muséum vous propose de prolonger l'exploration de l'océan avec une sélection de récits. Voyage au pôle sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée, par Jules Dumont-d'Urville.
Par ordre du roi, Jules Dumont-d'Urville, officier de marine et explorateur français, part en 1837 pour une expédition dans l'océan Antarctique. Après avoir affronté les plus grands périls, le capitaine des corvettes l'Astrolabe et la Zélée découvre enfin, en janvier 1840, une mer que jamais navire n'a encore sillonnée. Monsieur Duroc, qui était de quart, avait déjà fixé sa lunette sur un point où, un instant, il avait cru apercevoir des taches noires. Mais toute marque de ce genre avait disparu ensuite, à mesure que nos corvettes avaient pris du mouvement. Tout à coup, il aperçut de nouveau des rochers, dont la teinte sombre tranchait sur la blancheur des neiges et qui disparurent ensuite derrière les glaces. Mais cette fois-ci, la terre avait été reconnue d'une manière non équivoque. Et je me décidai à faire disposer une embarcation pour aller vérifier ce fait important. À l'heure avancée à laquelle nous nous trouvions, il n'était point sans danger d'envoyer un canot à une si grande distance. Toutefois, désireux de profiter de ces circonstances heureuses qui pouvaient ne plus se représenter, je confiai le canot-major à M. Duroc, avec la mission de recueillir des fragments palpables de notre découverte. La Zélée envoya de son côté une embarcation sous les ordres de M. Dubouzet. Comme nous, les officiers de ce bâtiment avaient aperçu ces flots dénudés. Et comme nous aussi, ils désiraient vivement aller les étudier. Les deux embarcations qui s'étaient dirigées sur la terre ne rentrèrent à bord qu'à 10h30, chargé de fragments de rochers arrachés au rivage. Voici le récit consigné dans le journal de M. Dubouzet sur cette intéressante excursion. Pendant la journée entière, tous nos yeux avaient été fixes sur la côte, pour tâcher d'y découvrir quelques points où l'on vit autre chose que de la neige et de la glace. Enfin, au moment où nous commencions à désespérer, et après avoir dépassé un amas de grandes îles flottantes qui nous masquaient tout à fait le rivage, nous aperçûmes plusieurs petits îlots dont les flancs, dépouillés de neige, nous montrèrent cette teinte de terre noirâtre si ardemment désirée. Quelques instants après, nous vîmes le canot-major de l'Astrolabe se détacher de cette corvette et se diriger vers le rivage avec un officier et deux naturalistes. Immédiatement, je demandai au commandant Jacquinot de m'embarquer dans sa yole qu'il faisait mettre à la mer pour l'envoyer à terre. Le canot de l'Astrolabe avait déjà pris beaucoup d'avance sur nous. Nous forçâmes la nage et au bout de 2h30, nous atteignîmes le plus rapproché des îlots aperçus. Nos hommes étaient tellement pleins d'ardeur qu'ils s'aperçurent à peine des efforts qu'ils venaient de faire pour franchir en si peu de temps une distance de plus de 7 000. Chemin faisant, nous rangeâmes de très près d'immenses îles de glace. Leurs flancs perpendiculaires, rongés par la mer, étaient couronnés à leur sommet par de longues aiguilles d'une glace verdâtre formée à la suite du dégel. Leur aspect était on ne peut plus imposant. Elle paraissait former, dans l'est des flots sur lesquels nous nous dirigions, une digue redoutable. ce qui me fit penser qu'elles étaient échouées peut-être par 80 à 100 brasses de fond. Leur hauteur indiquait à peu près ce tirant d'eau. La mer était couverte de débris de glace qui nous forçaient à faire beaucoup de sinuosités. Sur ces glaçons, nous apercevions une foule de pingouins qui nous regardaient tranquillement passer. Il était près de 9 heures lorsque, à notre grande joie, nous prîmes terre sur la partie ouest de l'îlot le plus occidental et le plus élevé. Le canot de l'Astrolabe était arrivé un instant avant nous. Déjà, les hommes qui le montaient étaient grimpés sur les flancs escarpés de ce rocher. Ils précipitaient en bas les pingouins, fort étonnés de se voir dépossédés si brutalement de l'île dont ils étaient les seuls habitants. Nous sautâmes aussitôt à terre, armés de pioches et de marteaux. Le ressac rendait cette opération très difficile. Je fus forcé de laisser dans le canot plusieurs hommes pour le maintenir. J'envoyai aussitôt un de nos matelots déployer un drapeau tricolore sur ces terres qu'aucune créature humaine n'avait ni vue ni foulée avant nous. Suivant l'ancienne coutume que les Anglais ont conservée précieusement, nous en prîmes possession au nom de la France, ainsi que de la côte voisine que la glace nous empêchait d'aborder. Notre enthousiasme et notre joie étaient tels alors qu'il nous semblait que nous venions d'ajouter une province au territoire français par cette conquête toute pacifique. Si l'abus que l'on a fait de ces prises de possession les ont fait regarder souvent comme une chose ridicule et sans valeur, dans ce cas-ci, au moins, nous nous croyons assez fondés en droit pour maintenir l'ancien usage en faveur de notre pays. Car nous ne dépossédions personne, et nos titres étaient incontestables. Nous nous regardâmes donc de suite comme étant sur un sol français. Celui-là aura du moins l'avantage de ne susciter jamais aucune guerre à notre pays. La cérémonie se termina comme elle devait finir, par une libation. Nous vidâmes, à la gloire de la France, qui nous occupait alors bien vivement, une bouteille du plus généreux de ces vins qu'un de nos compagnons avait eu la présence d'esprit d'apporter avec lui. Jamais vin de Bordeaux ne fut appelé vidé plus à propos. Entouré de tous côtés de neiges et de glaces éternelles, le froid était des plus vifs. Cette liqueur généreuse réagit avantageusement contre les rigueurs de cette température. Tout cela prit moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire. Nous nous mîmes aussitôt tous à l'œuvre afin de recueillir tout ce que cette terre ingrate pouvait offrir de curieux pour l'histoire naturelle.
Extrait du livre Voyage au pôle Sud et dans l'Océanie sur les corvettes l'Astrolabe et la Zélée par Jules Dumont d'Urville. Tome 8e, édité en 1845 par Gilles et Compagnie à Paris. Lecture par Paul Bouffartigue. Source gallica.bnf.fr, Bibliothèque nationale de France. Pour que nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective. Avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée « Pour que nature vive » qui a inspiré le titre de ce podcast. «